Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, deuil national de 3 jours jusqu'au dimanche 25 août à minuit. Décision prise par le président Roch Marc Christian Kabore jeudi suite au décès de 24 soldats lors de l'attaque contre le détachement militaire de Koutougou lundi dans le Sahel burkinabé. Les militaires tués ont été enterrés hier à Dori, chef-lieu de la région. Remaniement ministériel en Gambie, le président Abdamama Barrow a nommé jeudi un ministre de la Défense pour la première fois en 22 ans. Un portefeuille attribué à Cheikh Omar Faye, consul général de Gambie à Jeddah, en Arabie Saoudite. Un ancien chef de la police controversé est affecté au ministère de l'Intérieur. Depuis 1997, d'abord sous le président Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays d'une main de fer de 1994 à 2017, puis sous son successeur, l'ancien opposant Adama Barrow, les prérogatives du ministère de la Défense étaient directement exercées par le chef de l'État. Toujours concernant l'Afrique de l'Ouest, les autorités américaines ont annoncé hier le démantèlement d'un vaste réseau international d'escrocs. Nigérians pour la plupart. Les intéressés sont accusés d'avoir dérobé des millions de dollars à des entreprises, des utilisateurs de sites de rencontres et des personnes âgées aussi. Le point avec Ekia Badou.
80 personnes sont inculpées dans cette affaire, dont 14 ont été arrêtées sur le territoire américain, principalement dans la région de Los Angeles, a précisé Nick Hanna, procureur fédéral pour la Californie. Les autres suspects sont encore en liberté, pour la plupart au Nigeria. Les inculpés et d'autres complices sont accusés d'avoir utilisé diverses formes d'escroquerie sur Internet, arnaque au président, manipulation sentimentale sur des sites de rencontres aux États-Unis et partout dans le monde. Certaines des victimes ont perdu des centaines de milliers de dollars et beaucoup étaient âgés, révèlent les services du procureur. De telles arnaques font perdre des milliards de dollars chaque année, a déclaré Paul Delacour, un responsable du FBI, la police fédérale à Los Angeles. Pour blanchir l'argent, le réseau avait recours à 2 ressortissants nigérians résidant aux États-Unis, Valentin Hiro, 31 ans, et Chukwudi Gbokwe, 38 ans. Les 2 hommes sont accusés d'avoir organisé le transfert d'au moins 6 millions de dollars sur des comptes hors des États-Unis.
Afrique australe maintenant, politique en Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa promet de sévir contre quiconque se serait rendu coupable d'actes répréhensibles durant la collecte de fonds pour sa campagne en vue de la présidence de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir. Une mise en garde lancée solennellement jeudi. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Concernant tout ce qui a été fait contre nos lois pendant la campagne, oui, je serai prêt et disposé à agir sans aucun doute, a déclaré hier au Parlement le président Cyril Ramaphosa. Un an après avoir conduit son parti à la victoire aux législatives de mai 2019, M. Ramaphosa est confronté à des interrogations sur le financement de sa campagne. Il est accusé d'avoir trompé le Parlement l'an dernier quand il a répondu à une question sur une donation de près de 32 000 euros faite par un groupe industriel. La médiatrice de la République lui a aussi ordonné de divulguer les coordonnées de tous ses donateurs. M. Ramaphosa s'est dit convaincu que sa campagne a été légitime, qu'il n'y a pas eu d'actes répréhensibles, pas de criminalité et pas d'abus de fonds ou de ressources publiques. Après une bataille serrée, il a succédé à Jacob Zuma à la tête de l'ANC en décembre 2017, puis à la présidence. Il a promis à maintes reprises d'éradiquer la corruption.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique australe toujours, au Zimbabwe, les défenseurs des droits de l'homme réclament le maintien des sanctions occidentales contre Harare. Mais la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, a appelé cette semaine à la levée de ces mesures punitives. Les réactions aux sanctions divergent donc à Harare, comme nous le rapporte Columbus Mavunga, récit Salwa Jafari.
Le groupe pro-gouvernemental, la coalition contre les sanctions, campe devant l'ambassade américaine à Harare depuis février. Ses membres se félicitent de l'appel lancé dimanche par la communauté de développement de l'Afrique australe pour lever des sanctions occidentales en vigueur depuis 2002.
Rachel Kamangira fait partie de cette coalition.
Ils visaient notre ancien président. Aujourd'hui, il ne dirige plus ce pays. Mais ceux qui souffrent sont des Zimbabwéens ordinaires.
L'économiste Daniel Ndelela pense que les sanctions qui ciblent des responsables zimbabwéens et les organes de l'État ont peu à voir avec l'économie en difficulté. La mauvaise gestion du gouvernement est à blâmer.
L'idée est que si les sanctions sont levées,
certains pensent que si les sanctions sont levées, nous aurons immédiatement des prêts. Mais cela ne se produira pas tant que nous ne rembourserons pas les dettes dues aux institutions financières internationales. Les gens disent qu'il n'y a pas de nourriture, pas de médicaments, pas de manuels dans leur salle de classe en zone rurale à cause des sanctions. C'est une blague.
L'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions au gouvernement de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, pour fraude électorale et violation des droits de l'homme. Mais depuis 2017, sous le règne du président Emmerson Mnangagwa, la situation s'est aggravée selon les militants des droits de l'homme. L'activiste Tatenda Mombeyarara dit avoir été enlevé et battu la semaine dernière par des membres des forces de sécurité, une accusation qu'il nie.
Il serait erroné pour tout organisme ou institution de supprimer les sanctions contre le tort qui a été fait. Les sanctions ont pour but d'améliorer la situation des droits de l'homme au Zimbabwe. En réalité, la situation s'est aggravée. Nous nous trouvons dans une situation bien pire. Donc, si nous obtenons des sanctions en raison des violations des droits de l'homme, ces sanctions devraient être renforcées. C'est ce qui devrait se passer.
En mars, les États-Unis ont prolongé d'un an les sanctions à l'encontre du Zimbabwe en invoquant les restrictions imposées par le gouvernement à la liberté de la presse et contre les activistes. Pendant ce temps, les autorités refusent d'autoriser les manifestations contre le gouvernement Mnangagwa pour sa gestion de l'économie.
Afrique du Nord, en Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed, l'un des principaux candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre, annonce avoir délégué ses pouvoirs jeudi pour se consacrer principalement à sa campagne électorale. Décision prise dans le souci d'assurer la transparence dans le processus électoral et pour éviter tout conflit d'intérêts, a souligné M. Chahed, devenu en 2016 à 40 ans le plus jeune Premier ministre de la Tunisie. Le premier tour du scrutin présidentiel aura lieu le 15 septembre. Le sommet du G7 s'ouvre demain samedi à Biarritz, dans le sud de la France, de l'Iran au commerce, en passant par le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Les 7 grandes puissances démocratiques et industrielles sont appelées à resserrer les lignes de fracture. L'économie mondiale, guettée par la récession sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, sera l'objet de toutes les attentions. La Russie, exclue de ce forum depuis l'annexion de la Crimée en 2014, pourrait aussi faire parler d'elle. Le président américain Donald Trump préconisant à contre-courant de ses pairs la réintégration de Moscou. Durant 3 jours, les leaders du monde seront confinés dans un palace loin de la société civile dont ils se veulent à l'écoute. Plus de 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la région où un grand rassemblement d'opposants au sommet fait craindre des violences. Ici aux États-Unis, le patron de la Banque centrale fédérale doit prononcer ce vendredi à Jackson Hole dans le Wyoming un discours crucial pour tenter d'expliquer son plan pour préserver la croissance de la première économie mondiale. Les détails avec Eric Manirakiza.
Des marchés boursiers seront très attentifs. Le président de la Fed, Jerome Powell, va s'exprimer pour la première fois depuis la baisse des taux de fin juillet. Les marchés qui attendent la confirmation de leur anticipation sur une baisse des taux, comme le président Trump, partisan d'une forte réduction des taux d'intérêt, vont analyser ses moindres mots. M. Trump a souvent accusé le patron de la Fed de désavantager les États-Unis face aux concurrents. L'économie américaine montre actuellement des signes mitigés, mêlant une solide consommation et des investissements décevants et frileux face aux tensions commerciales et à l'affaiblissement de la croissance mondiale. M. Powell s'efforce d'accompagner la faible inflation et de prolonger la plus longue croissance américaine de l'histoire en accordant ce qu'il a appelé un ajustement de milieu de cycle sans promettre une série de baisses des taux. La prochaine réunion de la Banque centrale est prévue dans 3 semaines, les 17 et 18 septembre, et les marchés s'attendent largement à une nouvelle baisse des taux d'intérêt.
Et pour terminer, conflit en Afghanistan, les États-Unis et les talibans afghans ont repris jeudi leurs négociations à Doha au Qatar avec pour objectif d'aboutir à un accord historique qui permettrait le retrait des soldats américains d'Afghanistan après 18 ans de conflit. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.